Alors, je courais un peu. C'est mon petit garçon Gabriel qui a 2 ans en bas. C'est une joie de retrouver quelques amis. Ça fait rappeler la jeunesse. J'avais 21 ans quand j'étais pas ici avec le groupe des jeunes. Et je me réjouis aussi de vous retrouver et pouvoir ensemble partager la parole. Alors, justement, nous, voilà, on est mariés depuis 11 ans, bientôt 12 ans. Voilà, nous sommes parents de 4 garçons. Alors, ça déménage. La famille a dit oui, le 5e, ça sera une fille. Dit, non, il n'y a pas de plan là pour le 5e. On se calme déjà. Il faut qu'on trouve l'équilibre. On se réjouit de voir voilà, que les enfants, la vie, Dieu a fait des merveilleux cadeaux. Et c'est quelque chose qui est merveilleux, c'est la famille. Je pense que c'est un des biens les plus précieux que le Seigneur nous a confiés. C'est la famille. Et quand on voit la Bible, c'est une histoire de famille. Ça commence par un couple, et ça continue tout au long, où le Seigneur va mettre à part une famille, un peuple, et le Seigneur va travailler, va agir, il va se révéler. Et ce matin, on aimerait partager un message. Parce que je pense que tous sommes concernés. On voit que dans le monde aujourd'hui, la famille, elle est vraiment attaquée. Elle est vraiment prise comme cible. Et beaucoup de choses qui touchent et qui essayent de détruire. L'ennemi, il vient pour détruire, séparer, diviser, tuer. Jésus, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il a des promesses pour nous. Et c'est important de prendre des principes dans la Bible, des choses, et de prendre aussi des positions. Prendre conscience que parfois on peut être en danger et pouvoir trouver des ressources dans le Seigneur. Amen. Alors je présente mon épouse Priscille, c'est elle qui va introduire ce moment.
Alors, la famille a plusieurs visages. Ça peut être une famille nombreuse, ça peut être une famille monoparentale, ça peut être une famille recomposée. Aujourd'hui, il y a plein de types de familles. Et d'ailleurs, on fait tous partie d'une famille et on est tous issus d'une famille. Donc ça nous touche forcément. Alors, je vais vous présenter une vision idéale de la famille. Alors, voilà. Vous voyez, vous connaissez, hein ? Kate et William se mettent au vert. Regardez comme ils sont ravis, heureux, ils sont contents, ils sont fiers de leurs enfants. On sent le regard paternel là, qui est fier, la fierté qui est là. Et tout a l'air si parfait. On peut presque entendre les petits oiseaux qui gazouillent derrière. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et maintenant, je vais vous montrer la maman. On peut mettre là juste l'image suivante. La mère idéale. Elle maîtrise tout. La gestion parfaite. La famille, elle gère. Les enfants, elle gère. La carrière, au top. Elle a du temps pour ses amis aussi. Et en plus, elle a une taille de guêpe. Incompréhensible. Bref, un sourire à toute épreuve. Le père, lui, il a une bonne situation. Quand il sort du travail, mais il est jovial. Il est content. Il entend, il écoute. Il a toujours le mot pour rire. Il a toujours réponse à tout. Et puis bon, évidemment, il se fâche jamais. Et puis... il arbore une jolie petite rangée de tablettes de chocolat qui est restée intacte là-devant. Les enfants, que dire des enfants? Ils sont magnifiques, la maison étincelle. Regardez là, l'image numéro 2. Là, tout est parfait. C'est magnifique. Jamais un verre n'est renversé à table. Non, jamais. Les enfants sont tellement propres. Ils brillent, ils étincellent, ils sont polis, ils sont souriants et silencieux. Mais oui, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais. Tout va bien dans le meilleur des mondes, puisque bébé sourit. Et d'ailleurs, il ne fait jamais caca. Bon, ok, on a compris, on a tous compris, c'est pas du tout la réalité. On est d'accord? C'est pas du tout ça, la famille. C'est pas toujours parfait, hein? Et puis, c'est vrai que parfois, on traverse des circonstances, des difficultés, des épreuves qui vraiment peuvent nous affecter profondément. Quand un enfant arrive, souvent, ça nous remet en question parce qu'on est épuisé, les nuits sont courtes, ça bouge tout l'équilibre de la famille, tout le monde doit chercher, retrouver sa place. Ce n'est pas facile. Et qu'on veut vous dire ce matin, c'est que nous pouvons aujourd'hui faire des choix. Des choix pour guérir nos familles, pour restaurer nos familles. Nous pouvons faire des choix, ce choix de combattre pour nos familles. La famille, c'est un vrai défi au quotidien. Et Laurel, aujourd'hui, pour vous, c'est peut-être une vie de famille qui n'est pas facile. Peut-être une relation familiale qui n'est pas idéale. Parfois, on peut passer par des temps où il y a des tensions, où on se dispute sans arrêt, ou parfois une relation qui est brisée, où on ne se parle vraiment plus. Et parfois, dans notre société, c'est un peu ça. On essaie de tout normaliser. On essaie de dire, c'est normal, c'est l'adolescence, il ne parle pas, il est dans sa chambre. C'est normal, c'est comme ça. Et c'est comme si on veut tout normaliser. Tout le monde est comme ça. Tout le monde fait comme ça, tout le monde finit par divorcer, tous les ados sont comme ça, tous les enfants mentent, et toutes les belles-mères sont détestables. Hein, c'est un peu ça. Mais ça, c'est pas vrai. Il faut vraiment qu'on se batte contre ces forces, il y a comme des pressions qui sont là, contre la famille, et contre l'idéal même de la famille selon le cœur de Dieu. Et nous devons nous lever. Nous devons vraiment nous lever, parce que tout ça, ça dénature, ça dilue ce que Dieu veut de la famille. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui veut donner mieux. Qui veut donner mieux à nos enfants, mieux que ce que nous avons peut-être vécu. Et il y a des gens, peut-être ici, qui portent des fardeaux, où ils sont arrivés à un point où ils se disent « C'est trop dur, j'ai plus de force, c'est trop difficile, j'ai besoin de force ». Je veux tellement voir ma famille réussir. Ça me tient tellement à cœur. Et comment est-ce que je peux donner parfois ce que je n'ai même pas reçu? Alors la famille, c'est vraiment un combat. Et ce matin, c'est vraiment un appel à combattre pour vos familles. Un appel à combattre, se lever. Se lever. Et je vous donne une bonne nouvelle. Vous ne combattez pas tout seul. Le Seigneur est avec vous. Il est cette force qui relève. On veut combattre pour nos familles, pour nos couples, pour nos fils, nos filles, nos parents, nos relations même avec nos beaux-parents, et puis peut-être les grands-parents aussi, les oncles et tantes. Et aussi, on veut s'aider les uns les autres. C'est important de parler de ces choses et de s'entraider. On va prendre la parole dans Néhémie 4, versets 11 à 13. Car les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux, et leurs ennemis disaient, ils ne comprendront pas ce qui leur arrive avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi j'ai placé derrière les murailles de protection le peuple, par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Et leurs ennemis disaient, ils ne comprendront pas ce qui leur arrive avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, c'est ça aussi. Parfois, on peut se dire, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Cette relation, elle allait trop loin. C'est ce qui a été dit, c'était trop grave. Ce qui a été fait, c'est trop grave. Et c'est comme si nous, on met un point final. Non, c'est fini. Mais non, Dieu veut mettre des virgules là où nous, on a mis des points. Et parfois, on se demande, mais je ne sais pas comment ça se passe. Je ne comprends pas comment ça se fait que mon fils s'est retrouvé comme ça, ma fille s'est retrouvée comme ça, mon mariage est en arrivé là. Je suis découragée. Et parfois, on ne sait plus comment réagir face à cette situation. Et Néhémie 4, verset 14, la suite nous dit, « Je leur dis alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur grand et tout-puissant. Et combattez pour vos frères et vos sœurs, vos femmes, vos fils, vos filles. Levez-vous et combattez pour vos maisons. Ton Dieu est tout-puissant. Et il appelle tes fils ses fils. Il se lève avec toi, il n'est pas trop tard pour la restauration de vos maisons, pour que ça change, pour qu'il y ait la paix. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour qu'il y ait la joie dans les relations. Et ça en vaut la peine, ça en vaut la peine de combattre pour nos maisons. Et lorsqu'on se lève pour combattre, Dieu se lève avec nous. La Bible, ce n'est pas du tout une version hollywoodienne de la famille. Il y a des vraies situations, avec parfois des drames, avec des relations qui sont difficiles, On voit, hein, dans, même dans la première famille, le premier couple, ben, ils se sont rejetés la responsabilité l'un sur l'autre. Le premier meurtre, ça a été entre un frère, deux frères en fait, Cain et Abel. C'est pas si joli que ça, hein, c'est pas le fleuve long et tranquille qu'on voudrait. Mais comment alors grandir ? Comment grandir dans une famille parfaitement imparfaite ? Telle est la question. Jésus, en fait, lui-même, il avait une famille imparfaite. La preuve, on peut voir, en fait, c'est la version originale de « Maman, j'ai raté l'avion ». Ben oui, ils ont oublié Jésus. Ils ont oublié Jésus, ils l'ont laissé dans le temple. Et si on voit, dans Luc 2, 52, pourtant, la parole de Dieu nous dit que malgré cette famille imparfaite, Jésus grandissait. Luc 2, 52 nous dit « Mais Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes et devant Dieu. » Alors là, on a quatre clés pour grandir. Alors, on a la croissance en sagesse, donc ça c'est tout ce qui est la sphère intellectuelle, l'éducation, les cours, les valeurs. Ensuite, c'est en stature, là c'est toute la croissance physique, les habitudes saines, la nutrition, la dimension de mon corps, la dimension aussi de marcher avec nos enfants à travers tous les défis de croissance, parfois les handicaps, les maladies, les défis physiques. Ensuite, grandir en faveur devant les hommes. Tout ça, c'est la dimension sociale. Tout ce qui est les habiletés interpersonnelles, les habiletés relationnelles, savoir dire son avis, dire ce qu'on en pense, mais aussi le respect des autorités, avec les professeurs, avec les patrons, avec les amis. Et enfin, grandir devant Dieu, la quatrième sphère. Ça, c'est vraiment un appel à la responsabilité d'un sens et grandir dans la connaissance de Dieu, de sa nature, de son salut, de qui il est. Et je ne sais pas vous, mais en fait, on a souvent tendance à appuyer sur l'une ou l'autre de ces sphères-là, de ces quatre sphères. Alors, parfois, on se dit « Ah oui, l'important, c'est l'éducation, moi. » Oui. Un bon diplôme, c'est parfait. Ou alors parfois, on peut aussi se focaliser sur tout ce qui est aspect matériel, en se disant, bah, s'ils ont tout, ils seront heureux. Mais en fait, Dieu nous appelle à vraiment avoir un équilibre entre ces quatre sphères-là. Et le Seigneur peut nous aider en cela. Donc il nous faut vraiment amener un équilibre dans ces quatre sphères de croissance, tout en gardant une ambiance qui est propice. Alors ma responsabilité, votre responsabilité, c'est d'amener nos enfants, à grandir en tout point. Et une famille forte, c'est une famille qui grandit et qui croît, qui est toujours finalement en croissance.
Oui. Alors, une famille en croissance, une famille en bonne santé, mais il y a des choses aussi qui nous bloquent et qui stoppent aussi la croissance. Je vais juste citer deux, qui c'est quelque chose qui peut freiner vraiment le développement. Une des choses qui peut freiner la croissance de la famille, c'est celui qui abdique, c'est celui qui abandonne, c'est celui qui baisse le bras et qui passe pour le moment des difficultés, dans des épreuves, où on dit les choses ne vont pas changer, les choses qui se passaient, c'est trop grave, ça a été trop loin, c'est fini. Et parfois, on met des points finaux et on abandonne. Et ce matin, je veux parler, parce que ça, c'est une tentation et un mensonge de l'ennemi qui essaye de nous bloquer et nous freiner dans notre avancement. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à être en mouvement. Et il y a des choses qui viennent pour nous voler. Et parfois, accepter des pensées comme ça, comme c'est de toute façon, voilà, c'est fini ma relation avec mon père, elle était trop loin, ou alors c'est fini maintenant par rapport à mon couple, ça ne change pas. On rentre dans une pensée qui, de toute façon, ça ne va pas changer. C'est peut-être entrer dans des choses que je suis comme ça, tout est figé. Et je suis là pour te dire que Dieu est puissant pour tout changer. Dieu est puissant pour tout changer. Il ramène la mort à la vie. Et il ne veut pas qu'on soit un peuple qui abandonne. parce qu'il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Il demeure fidèle. Et nous pouvons compter sur lui, ouvrir notre cœur et prendre des positions pour notre famille. Prendre des positions. Non, je n'accepte pas, Seigneur. Je veux vraiment proclamer des promesses pour moi. Promesses pour ma famille. Tu es là avec moi. Et je vais prendre courage. Prenez courage. Un des pièges qui freine la croissance, c'est quand on abandonne. Et qu'on laisse, on jette l'éponge. Seigneur, il nous appelle à prendre courage, à ne pas laisser tomber. Une autre chose aussi qui freine la croissance et qui bloque aussi le développement de la famille, c'est quand on pense savoir tout. Je sais. Quand on rentre dans un orgueil qui en fige, moi j'ai raison, de toute façon je sais tout. Parfois il y a des situations qu'il faut avoir une humilité, reconnaître qu'on est en apprentissage et qu'on doit apprendre à être ouvert pour se développer. On a des saisons, on a toujours des choses à apprendre et on va continuer à apprendre jusqu'au bout. Et que c'est important, c'est de pouvoir s'ouvrir et demander au Seigneur de venir travailler notre cœur, qu'on ne reste pas figé. C'est remettre en question et dire, Seigneur, tu peux changer ma vie. Il peut changer. Il peut changer. Alors, monsieur, c'est tout, ou madame, c'est tout, attention, on s'enferme. Et on bloque la croissance. Et on doit grandir. On apprend à grandir comme au père, comme au mari, comme au fils, comme fille, comme grands-parents. Vous savez, les grands-parents ont un rôle tellement important. Il y a quelque chose à transmettre. Quelque chose qui est là, un héritage qui est plus fort qu'un bien matériel. Il y a quelque chose qu'on peut transmettre à nos enfants. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Il y a des saisons, et on apprend, par exemple, quand on se marie, on apprend à vivre ensemble. Tout à coup, vient un enfant, on apprend à gérer un enfant, on devient presque au centre de... Et on doit trouver notre place. Après, vient le 12e enfant, c'est encore une autre gestion. Il faut, chaque fois, il y a un mouvement. Un 3e enfant qui vient, c'est encore une autre organisation. Il y a des... il faut trouver la vie de couple, trouver l'équilibre avec les enfants. Et après, vient le 4e enfant. Là, c'est... Lydia, elle est rentrée dans cette... Et là aussi, c'est que ça change, même la voiture change, ça change tout. Il y a une organisation, et chacun doit avoir une place. Mais c'est important de reconnaître qu'on ne doit pas freiner la croissance, mais avancer dans notre vie. Et discerner les temps qu'on vit, les périodes pour se laisser transformer. Alors, trois choses à apprendre et à communiquer en famille pour que, voilà, qu'une famille grandisse. Une chose, c'est se laisser transformer. Voilà. Se laisser transformer, continuer à grandir. Le Seigneur, il veut travailler en nous, développer en nous. Il veut qu'il est son désir qu'on puisse réussir. Et il va nous attirer à nous à réaliser ce qui se passe dans nos cœurs. Et c'est important d'apprendre à se connaître soi-même. C'est apprendre à connaître nos émotions, nos sentiments, ce qui se passe à l'intérieur. Grandir. Pouvoir mettre des mots. Apprendre à changer. Il y a un temps qu'on était un enfant, il y a un temps qu'on était jeune, il y a un temps qu'on arrive à une maturité. Il y a un temps. Il rentre dans le temps que Dieu a préparé pour vous. Il laisse, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Et les enfants vont voir que les parents changent et ils vont aussi changer. Ils vont aussi se développer. Et c'est important de parler des émotions, ce qui passe à l'intérieur. Les enfants, parfois, ils ont des crises de colère, ils ont des situations qui de ces émotions qui sont là, il faut donner des noms. Il faut les écouter. Pouvoir chercher quelques enfants sont introvertis. Moi, j'ai Elias qui est introverti et qui a tendance à se renfermer. Mais c'est important qu'il puisse parler de ce qu'il vit, de l'intérieur, et qu'il puisse apprendre à gérer aussi les conflits intérieurs. Il y a des psychologues qui disent que l'enfant, de l'enfance à l'adolescence, beaucoup de choses façonnent. Et ce qui n'est pas exprimé, ou ce qui n'est pas, qui est, et ce qui est réprimé, ça va s'imprimer. Et on doit vraiment veiller un peu dans cet équilibre et la construction du caractère. Et le Seigneur, il nous parle. Il nous parle clair en Galates 5, verset 18 à 22. Il va parler qu'est-ce que c'est les œuvres de la chair et qu'est-ce que c'est les œuvres de l'esprit. Et en fait, il parle aussi de nos tendances, pas nous, pas notre propre nature, on a tendance à faire des choses mauvaises. On est à la chair et à tirer. Le verset, il dit, la manifestation de notre nature humaine sont évidentes. Elles sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, le débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, la querelle, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, l'idolâtrie, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je vous l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la mesure, la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Le Seigneur, il veut nous aider aussi à changer. À changer. Il travaille aussi notre caractère. Il voit aussi des fruits dans notre vie. Et ce n'est pas par notre force, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous pour nous aider. Nous aider à tenir ferme face à la tentation et dire non à des choses. C'est quand Paul dit, je suis crucifié avec Christ, c'est un renoncement. Parfois, c'est des renoncements, parfois des envies qu'on sait bien qu'il n'est pas correct et conforme au Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir la victoire. Et ces fruits-là, l'amour, avoir le fruit de l'amour, c'est quelque chose de puissant. Et tout ça, on peut vivre très, très fortement dans le cadre de la famille. Quand on dit porter le fruit, la patience, le Seigneur donne la patience, mais maintenant, tout de suite. Non, mais le Seigneur va faire des choses que tu vas être. Comment travailler? Par exemple, je veux grandir dans l'amour, le Seigneur va mettre quelqu'un qui peut-être va être pas trop sympathique, parce que c'est facile d'aimer ce que tu aimes, mais. Choisir d'aimer quelqu'un qui peut-être n'est pas très aimable dans le travail ou dans une situation, c'est là que le Seigneur vient à notre aide, qui nous façonne. La paix quand tout va bien, non, parfois quand la paix, quand on a des difficultés, demander le Seigneur à son aide, et il vient donner la paix, la maîtrise de soi. Et tout ça, c'est confronté à des situations réelles. Et le Seigneur vient pour nous aider à nous transformer notre vision, notre caractère et qu'ils grandissent en nous. Grandissent en nous.
Alors une deuxième chose aussi qu'on peut apprendre à nos enfants, c'est comment gérer les conflits. Et les conflits, il y en a, hein, forcément. Quel couple ne s'est jamais disputé et quand, dès qu'il y a des enfants, et il y en a plusieurs, ben voilà, les disputes éclatent. Et c'est vrai que souvent, c'est bien à la maison qu'on voit qui on est en fait. En société, on peut avoir une façade, on peut avoir de la maîtrise de soi, par exemple, au travail, mais à la maison, on se révèle, n'est-ce pas? Alors, comment vous gérez les conflits à la maison? Comment les parents y règlent leurs conflits? Comment ils sont avec d'autres chrétiens? Comment ils sont avec les amis? Comment ils sont avec les gens du quartier? Et c'est là, vraiment, les enseignements les plus puissants. Les enfants vous regardent. Vous êtes leur première référence. Vous êtes vraiment, vous avez une responsabilité. Et ce que vous dites, ce que vous faites, les enfants, vraiment, c'est leur référence. Donc attention, la Bible nous donne des principes très précis pour les conflits. Romains 12, 16 à 19 nous dit « Ne rendez pas le mal pour le mal. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Soyez en paix avec tous. » Oula, c'est pas facile. Hein. « Ne vous vengez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Apprenez le pardon. Dites la vérité dans l'amour. » Alors, comment est ta famille? Si là, on arrête tout, qu'est-ce que les enfants peuvent dire de toi? Alors, est-ce qu'ils vont dire « Maman, elle crie. » Et puis, elle critique. Elle critique tout le monde. Mon papa, il fait des colères noires, c'est terrible. Il attaque les gens. Ou bien alors, oui, mes parents, ils ne sont peut-être pas parfaits, mais je les ai vus. Je les ai vus réagir. Je les ai vus dire pardon. Je les ai vus être ces personnes qui vont amener la paix, qui vont apaiser les choses. Je les ai vus, ils ne se couchent jamais sur la colère. Eux, ils ne laissent pas la rancune. J'ai vu mes parents pardonner, j'ai vu tout ça. Et souvent, bien souvent, par nous-mêmes, on n'est pas capable de toutes ces choses. On n'est pas capable, ce n'est pas naturel. Mais l'Esprit de Dieu nous rend capables. Il nous rend capables d'être ces gens qui amènent la paix et la grâce. Trop souvent, quand il y a des conflits, on a des attitudes. Alors, soit on prend la position du muet, soit on est un martyr, ou alors on est un maniaque. Alors, le muet, lui, il n'aime pas le conflit. Alors, on va tout faire pour nier le conflit. Non, 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 c'est pas grave, je dis rien, j'intériorise. Et puis, un jour, il y a tout qui explose. Alors là, c'est la catastrophe. Hein. Le martyr, quant à lui, c'est jamais sa faute. C'est toujours la faute de son mari ou de son enfant ou du voisin ou de ceci ou c'est à cause d'eux. Et c'est sa phrase préférée, c'est « Pourquoi moi ? J'ai pas le droit d'être heureux. » Bon, ça, c'est un petit peu des phrases clichés, mais on peut se reconnaître là-dedans. Parfois, cette tendance à se déresponsabiliser, de dire que c'est la faute de l'autre. Et le maniaque, quant à lui, il est volcanique. Alors lui, il y va, il rend coup pour coup. Et puis il explose assez fréquemment parce qu'il veut que tout le monde ait son avis. Souvent, il a un avis très tranché. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? La douceur. La douceur. Et certains, ils pètent vraiment les plombs. Et certains enfants, ils ont honte. Ils ont honte de la réaction de leurs parents. Et voilà, quand il y a des personnes qui ne se laissent pas se transformer, il y en a qui réagissent. On peut prendre deux images. Le putois et la tortue. Alors le putois, alors lui quand il a un problème, tout le monde est au courant. Hein. Alors ça sent partout. Hein. Il asperge tout le monde le putois. Hein. Oh là là, tout le monde est au courant de sa situation. Tout le monde est au courant qu'il n'est pas content. Personne ne peut l'ignorer. Hein. Ça y va. Et la tortue, quant à elle, elle est très agressive mais passivement. C'est-à-dire qu'elle intériorise tout et puis elle se coupe de la relation. Elle va se couper et puis elle dit non, ben, moi, voilà, je n'ai pas besoin de le dire, c'est bon, je garde ça pour moi et puis je vais couper la relation avec la personne, je vais m'éloigner. Mais en fait, rien n'est réglé. Et le problème, c'est que là, il y a de l'amertume, il y a un désir de vengeance qui est là, tout au fond, et qui peut d'un coup sortir et faire beaucoup de mal. On est vraiment appelé à dire la vérité. Dire la vérité dans un but de paix. Alors non seulement nous pouvons apprendre à nos enfants à régler leurs conflits, mais aussi à se relever des échecs. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile parfois. En tout cas, ce n'est pas à l'école qu'ils vont l'apprendre. Hein. À l'école, il y a les notes, c'est bon, c'est pas bon. Mais comment on fait pour apprendre à réagir à l'échec, aux déceptions, aux choses difficiles? Et souvent, les enfants qu'on surprotège, eh ben, c'est là qu'ils vont être le plus en danger, parce qu'ils ne savent pas, adultes alors, réagir aux déceptions, aux difficultés. Dans Proverbes 24, 14 à 16, la parole de Dieu nous dit « Mon fils, ma fille, apprends à connaître la sagesse. Si tu la trouves, il y a un avenir pour toi, et ton espérance n'est jamais anéantie, car lorsque les justes tombent, cette fois, Ils savent comment se relever. Et pour cela, il faut prendre en compte les déceptions, les difficultés de vos enfants. Alors, nous, notre grand Elias, là, il nous a étonnés dernièrement parce que son petit poisson rouge est mort. Alors, on va se dire, c'est un poisson rouge, ça se rachète, hein, ça meurt vite. Mais en fait, il était vraiment bouleversé. Il a pleuré, il fallait faire l'enterrement et tout ça. Mais il était inconsolable, c'était difficile. Et si on avait dit juste, bon, ben, on t'en rachète un, c'est pas grave. En fait, il n'aurait pas mis des mots sur ce qu'il a vécu intérieurement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il se culpabilisait parce qu'il a oublié de brancher le filtre. Vous savez, le filtre qui... Bon, bref. Donc, c'était difficile. Mais il fallait qu'il exprime tout cela. C'était important pour lui. Il fallait qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse l'aider à mettre des mots sur tout ça. Alors, nos enfants ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas nos copains. Ils n'ont pas les épaules pour ça. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas entendre. Et ce n'est pas leur place. Mais surtout, ne craignons pas. Ne craignons pas des peurs, des déserts, des échecs, des handicaps que nous-mêmes ou que nos enfants traversent. Pourquoi ne devons-nous pas craindre ? Parce que Dieu nous façonne à travers cela. Il nous façonne, il nous équipe à travers les tempêtes de la vie. Et la grâce infinie de Dieu nous relève.
Amen. Amen, relève. Alors, juste le troisième point, qui est quelque chose d'important aussi dans la famille, c'est de cultiver une bonne atmosphère dans la maison. Une bonne atmosphère dans la famille, c'est trouver du temps aussi pour le fun, du temps aussi pour s'amuser, pour une bonne ambiance. Ça, c'est quelque chose qui c'est important pour la santé, de passer du temps pour rire ensemble, jouer ensemble. Ça construit aussi. C'est pouvoir prendre plaisir dans la vie. Parce que parfois, c'est tellement au rythme, on est pris partout et le temps passe. Les enfants grandissent très vite, quelques-uns pourront dire. Hein. Et prends du temps pour s'amuser. Et certaines familles se privent de cela parce qu'elles sont trop sérieuses, trop perfectionnistes, trop performantes, trop occupées. Passer de temps. Il y a un verset en Ecclésiaste 8, verset 15, il dit je lève et je loue la joie. Je vous encourage à avoir du plaisir dans la vie parce qu'il y a du bonheur pour l'homme. C'est là ce qui n'en doit pas oublier, ce qui doit accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Voilà, il y a le temps aussi de pouvoir jouer, il y a le temps aussi de s'amuser, de pouvoir ouvrir des parenthèses et de travailler ces temps de cœur à cœur, des temps de qualité avec les enfants, mais aussi avec votre mari, votre épouse. C'est quand la dernière fois que vous avez ri ensemble? Prendre du temps de sortir des habitudes, de pouvoir surprendre, de pouvoir vraiment veiller. Et je parle juste par rapport aux hommes. Il y a quelque chose de très important que le Seigneur nous a confié, une responsabilité. Il y a trois choses que tu pourrais juste enregistrer. Dieu nous a donné de pouvoir être un protecteur pour nos enfants, mais pour notre épouse aussi. Protection. Il nous appelle aussi à être dans la provision, de pouvoir les besoins, non seulement matériels, mais aussi émotionnels, aussi les sentiments, de pouvoir au nécessaire, prendre conscience qu'on est là, qu'on a un rôle important. Il y a aussi ce rôle que les pères, ils ont aussi, c'est des projections, vision, où on va. Par rapport aux enfants, c'est intéressant, hein? Les mamans, elles ont tendance à garder les enfants dans les bras, les parents, plutôt, allez, vas-y, prends courage, va entreprendre des choses, on est là pour vous, on va être là, mais il y a comme quelque chose dans la destinée de nos enfants, que le père a un rôle important, qui construit l'identité aussi de nos enfants. Protection, provision, projection. Prends votre place. Prends votre place. Et veillez justement cette atmosphère de la maison qui soit aussi dans la joie. De pouvoir jouer. Et il y a ce verset aussi en Ecclésiaste 9:9 qui dit « Jouis de la vie, prends plaisir avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie avec tes enfants qui sont un cadeau de l'Éternel. » C'est un cadeau de l'Éternel. Dieu n'a pas donné la vie pour qu'on puisse subir la vie. Le Seigneur veut qu'on puisse jouir de la vie. Prendre du plaisir. Du plaisir ensemble. Choisir la vie. Choisir de pouvoir prendre aussi du plaisir ensemble. Et construire. C'est quelque chose qui reste dans la mémoire de vos enfants. Moi, avec des temps de qualité que j'avais avec mon père, qui m'ont marqué. C'était juste parfois quand il était stressé, qu'il y avait tellement de choses. Il prenait des parenthèses et dans samedi matin, il disait « Samuel, on va aller à la pêche. » La pêche, alors c'était pour moi. Bon, la pêche, tu fais reste là, tu es tranquille. Mais pour moi, c'était tellement... J'ai passé la journée, on était réveillé très tôt le matin avec tous les clips. Et on partait, mais c'était en temps de cœur à cœur avec mon père qui m'ont marqué. Il a communiqué une passion et d'être juste avec lui dans un lac, attendre un poisson. Parfois, il venait jamais. mais c'est des temps comme ça qui nous construit aussi. Laissez des mémoires, des choses, et exprimez votre amour pour vos enfants et votre épouse dans des qualités. Sortez. Parfois, la peur, ouais, on va dépenser de l'argent. Il y a des choses plus importantes auxquelles nous devons donner de valeur. Et prendre du temps pour la famille, et protège, et garde, veille, soit à l'écoute, soit discerne ce que vous êtes en train de vivre, soit visionnaire, où on voit ensemble. Communiquez cela.
Et les enfants, c'est un vrai trésor. C'est ce que la parole nous dit. Un cadeau donné par Dieu. Un cadeau. Psaume 127, 3 à 5 nous dit « Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un héros. Il est heureux. Il est heureux l'homme qui a rempli sa maison de telles armes. Quand il se défendra contre ses ennemis aux portes de la ville, il ne sera pas couvert de honte. » Une flèche, c'est quelque chose de pointu qui atteint normalement sa cible. Mais si on ne la dirige pas, alors là, ça peut être mortel. Elle peut être prise par les vents et ça peut vraiment blesser. Mais réjouissons-nous. Réjouissons-nous avec nos enfants qui sont des cadeaux de l'Éternel. Réjouissons-nous avec nos neveux, nos nièces, nos petits-enfants. Ce sont des cadeaux, des cadeaux. Alors parfois on peut se dire, c'est un cadeau retournable comme sur Amazon ? Non, non, non. Non, non, c'est pas retournable. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que vous-même, vous êtes des cadeaux aussi. Les parents sont des cadeaux pour les enfants aussi. De la même manière que les enfants sont des cadeaux pour leurs parents. Et les enfants se souviendront pas forcément de tout ce que vous leur dites, mais ils vont se souvenir des choses qu'ils ont ressenties avec vous. Ils vont se souvenir des moments où vous leur avez fait sentir des choses, ce que vous avez vécu avec eux, les moments de câlins aussi, les grosses rigolades. Alors le succès d'une famille en bonne santé, c'est du temps ensemble, du temps de qualité. Alors en conclusion, on va prendre ce verset de Jérémie 29, 11. Dieu a des projets pour nos familles. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors quelle que soit l'ambiance dans laquelle nous avons grandi, nous personnellement, eh bien, Dieu, il veut et il peut faire la différence dans nos vies aujourd'hui. Nous ne sommes pas conditionnés parce que nous avons vécu, parce que nous avons le plus grand des pères. Alors combattons contre nos mauvais caractères, contre nos mauvais penchants, avec l'aide de Dieu. Combattons pour être un modèle, des artisans de paix, plutôt que de laisser le non-pardon ou l'amertume faire du mal. Combattons pour préserver cette ambiance de joie, cette ambiance de paix dans notre foyer, où on se dit la vérité, mais toujours avec l'amour. Entre notre réel d'aujourd'hui, hein, parfois quand on entend ça, on s'accuse. Mais Dieu ne nous condamne pas. Il veut être ce Père qui nous aide. Et ce matin, je vous encourage vraiment à prendre cette décision de continuer. Continuer à combattre, à semer du rire, à semer de l'affection, à semer de l'appréciation, du pardon. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, pour récolter demain.
Amen. J'aimerais finir dans la prière. Je vous invite à vous lever. Nous voulons placer devant notre Père Céleste, qui nous connaît. Il est celui qui veut nous accompagner. Je veux dire, peut-être il y a des situations, des choses qui vous parlent ce matin. Le Seigneur, il veut agir. Il veut venir. Invite-le à venir dans des situations, là où les choses ont été brisées. Seigneur, c'est lui qui restaure, qui transforme. Et nous voulons inviter le Seigneur à venir. Seigneur, ensemble ici, nous voulons nous tourner vers toi. Te bénissons, Seigneur, parce que tu as des plans de bonheur et non de malheur. Bénissons, Seigneur Dieu, parce que tu es celui qui renouvelle les forces. Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui peut-être ont peut-être mis un point final, Seigneur, dans l'histoire, Seigneur, tu es celui qui est tout puissant pour changer en Père et en virgule, parce que tu as des choses à accomplir. Seigneur, et nous t'invitons, Seigneur Père, à agir dans nos cœurs, dans nos vies. Nous prions, Seigneur Père, que tu nous délivres du mal. Délivre parfois, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, de nos folies. Donne-nous, Seigneur, sagesse et discernement. Seigneur, je prie, oh Père, que ce fruit de l'Esprit soit dans chaque foyer. L'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Seigneur, et viens marquer, Seigneur, nos maisons par ton sang précieux. Tu sauves. Plaçons nos enfants, Seigneur, sur ton regard. Seigneur, tu es ce bon berger qui prend soin d'eux et nous prions qu'ils puissent grandir dans tes voies. Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, bénis les couples ici. Proclamons, Seigneur, ta vie, ta bénédiction, ta grâce qui coule. Seigneur, que tu renouvelles, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, chacun ici, Père, dans la foi. Père, et nous élevons ton nom contre l'ennemi de nos âmes, contre l'ennemi de la famille. Nous élevons, nous chassons, nous prenons position, Seigneur, devant toi. Nous voulons, Seigneur, vivre la victoire avec toi, oh Dieu. Nous refusons, Seigneur, le divorce. Nous refusons, Seigneur Dieu, que l'ennemi vienne voler nos enfants. Nous refusons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, tenir ferme avec toi, avec foi, que tu es tout puissant. Tu es celui qui combat avec nous. Seigneur, entoure, enlève, Seigneur, tout manteau de tristesse, tout désespoir, toute dépression. Nous refusons au nom saint de Jésus. Seigneur, tu as promis la vie, tu as promis la vie en abondance. Tu as tout accompli à la croix. Seigneur, et nous proclamons ta victoire ce matin, Jésus. Que chacun ici soit renouvelé, fortifié et qu'il puisse se lever au nom de l'Éternel, au nom de notre Dieu tout-puissant. Face, Seigneur, à les géants, Seigneur, que puisse, Seigneur, faire face comme David. C'est en ton nom, Seigneur, que nous allons. Merci, Jésus. Merci que tu es là. Merci, Seigneur, que tu entends nos cœurs et tu nous fortifies au nom saint de Jésus. Amen. 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 Alléluia.
Merci pour ce qu'on a reçu. Merci à vous. Merci à notre Dieu surtout. Je vous laisse découvrir le programme de la semaine à l'écran. Il y a juste un petit complément. Mardi après-midi, donc on a mardi soir, on a la réunion de prière ici. Et puis mardi soir, il y a aussi un concert à Genève dans l'église missionnaire évangélique. Alors, je pense que la plupart d'entre nous ne voient pas de quelle église il s'agit. Alors, c'est l'église dans laquelle Philippe de la Fuente, qui a donné le culte il y a quelques semaines ici, le message est pasteur. Elle est située dans le quartier des Paquis, au 15 rue de la Navigation. Donc il y a un concert de Stéphane Query. Par contre, je n'ai pas trouvé à quelle heure il était ce concert. Je ne sais pas si... 20h, hein? Ok, merci. Donc, concert à 20h de Stéphane Query. Query. D'accord. Merci. Donc, si mardi soir, quelqu'un reste à la maison, c'est qu'un problème. La semaine d'après, le 7 avril, le samedi 7 avril, il y a quelqu'un dans l'église qui va déménager. Waouh, c'est Dany qui déménage. Alors, elle est, j'imagine qu'elle est déjà en train de faire tous les cartons, qu'elle a même certainement une bonne partie de fait. Par contre, on ne va pas la laisser déménager toute seule, vous êtes d'accord? Alors, réservez déjà la date. Et puis, allez la trouver pour lui dire que vous serez là. Parce que c'est bien aussi qu'elle sache combien il y aura de personnes. Donc, je pense que ce sera le matin déjà.
Oui.
Ouais. Donc, déjà samedi matin, le 7 avril. À partir de 9h. OK. Très bien. Ensuite, du 10 au 15 avril, c'est la semaine d'après, il y aura une exposition sur la vie de Martin Luther King par nos amis Mennonites de Saint-Genis à la salle Jean Monnet. Alors j'ai mis un flyer à droite du panneau d'affichage. Vous pouvez voir toutes les infos. Et c'est intéressant aussi de participer à cela. Je vous rappelle les flyers aussi qui sont disponibles pour le club d'été. Oui, il y a aussi un flyer pour un concert de Common, c'est juste, hein, ouais, qui a été mis sur le panneau d'affichage. Pensons à continuer à Annelise. Annelise s'affaiblit toujours plus, forcément. Annelise, je l'ai visitée vendredi. Eh bien, elle dormait, elle a été très longue à se réveiller. Elle est de plus en plus confuse quand elle parle, mais elle est reconnaissante quand on lui lit la parole, quand on peut prier avec elle. On voit que ça l'apaise. Alors voilà, si vous avez du temps, si vous pouvez aller la visiter. Donc elle est toujours à l'hôpital de Bellerive. N'y allez pas pour faire un grand discours avec elle, ça risque d'être un monologue. Mais ce sont aussi des moments qui sont utiles et précieux. Est-ce que j'aurais oublié une annonce? Je ne crois pas. Oui, oui, juste, ouais. Après le culte, donc, il y aura un apéritif dehors. Le soleil se lève. On va en profiter. Donc, ne partez pas trop vite. Profitons de ce temps aussi pour passer un moment ensemble. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore quelques versets. Du psaume 121, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.